Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Ohana. Pour m'accompagner, eh bien, comme d'habitude, j'ai Olivier, le fondateur de la marque. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et nous avons notre spécialiste santé expérimenté dans le traitement des blessures des sportifs, à savoir Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Hermano, salut Olivier.
On termine la série de la semaine comme prévu avec la dernière discipline du triathlon. Enfin, quoique, je pense qu'on pourrait rajouter quelques disciplines dans le triathlon. Hein. On pourrait parler de musculation, on pourrait parler de préparation physique généralisée, on pourrait parler encore de bien d'autres choses, mais attachons-nous aux trois disciplines qui composent la compétition de triathlon. Et donc, on termine cette semaine avec la partie course à pied. Mehdi, quelles sont les blessures que l'on rencontre le plus souvent dans la partie course à pied dans le triathlon?
Alors, les blessures que l'on rencontre le plus souvent, c'était le syndrome de la bandelette iliotibiale. On se rappelle, c'est ce mouvement d'essuie-glace, syndrome de l'essuie-glace aussi, on appelle. Alors, c'est une petite bandelette qui vient frotter sur un processus osseux, une protubérance osseuse, et qui crée ce mouvement, voilà, de, enfin, avec ce mouvement de va-et-vient, on crée une irritation et du coup une inflammation de cette bandelette et des douleurs à ce niveau-ci.
J'imagine qu'il n'y a pas que ce type de blessure, parce qu'on ne l'a quand même pas précisé dans les épisodes précédents, mais finalement, la natation est un sport dit porté, le vélo également, puisqu'on est assis sur son vélo, même si on pédale. La course à pied, à l'inverse, n'est pas un sport porté. Donc, non seulement il faut porter son poids de corps, mais il faut également absorber tous les chocs que l'on va générer par le contact au sol. Est-ce que tu vois d'autres blessures très fréquentes en dehors du syndrome de l'essuie-glace?
Alors, ben, il faut savoir que la course à pied est l'une des disciplines alors les plus courantes. Tout le monde sait courir, on est fait pour marcher, pour courir. Et c'est la discipline qui rencontre le plus de blessures. Et dans le triathlon, on le rappelle à l'introduction, c'était à peu près 70% des blessures que l'on peut rencontrer lors des épreuves. Alors effectivement, la course à pied, c'est un sport en charge. Les blessures que l'on peut rencontrer, c'est au niveau du tendon d'Achille, tendon calcanéen. Il faut savoir que ce tendon, c'est le plus gros tendon du corps humain. Et il peut supporter des charges jusqu'à 12,5 fois le poids du corps. C'est des charges qui sont vraiment énormes et du coup, il peut, à cause de cela, être facilement blessé. Alors, on parle de tendinite d'Achille. Après, les blessures qui viennent par la suite, on parle de fractures de stress. Moins chez le triathlète, beaucoup plus chez le grand coureur, du coup le marathonien, où on va solliciter de manière répétitive et sur une longue durée les différentes structures. Et du coup, on peut avoir des petites fractures, alors qui sont bénignes, mais qui doivent être bien prises en charge au niveau des métatarses, des os du pied, du tibia ou encore de la hanche.
Il y a une blessure qui revient très souvent et notamment qui revenait très souvent chez moi avant que j'entame ma transition vers le minimalisme, c'est aussi les périostites. On n'en a pas encore parlé et pour autant que je sache, elles peuvent être aussi présentes en natation ou en vélo.
Oui, alors effectivement, les périostites font partie un peu des tendinopathies. Alors, on avait parlé, on avait donné un peu schématisé la structure d'un muscle, d'un tendon qui vient s'insérer sur l'os. En fait, entre le tendon et l'os, l'os aussi est recouvert d'une structure qu'on appelle le périoste, un tissu, et qui peut s'inflammer. On parle alors de périostite. C'est souvent des douleurs liées à une surcharge, une sursollicitation, comme une grande majorité des douleurs qui peuvent apparaître chez le sportif, et elles sont de type inflammatoire principalement.
Comment prévenir ces blessures, ces trois types de blessures? Tu l'as dit, on va simplifier du syndrome de l'essuie-glace, une blessure au niveau des tendons d'Achille ou autre, voire des fractures de stress ou encore les périostites. Comment prévenir ce type de blessure?
Tout départ, pour la première prévention qu'on peut mettre en place, c'est, on en parlait, éviter la surcharge de travail. C'est-à-dire, on ne se lance pas dans une activité physique sans avoir au préalable mesuré sa force, au préalable voilà établi son plan d'entraînement. Si on essaye d'atteindre un niveau trop élevé pour soi, ben c'est là qu'on se blesse et que les tendinites et ce genre de problèmes peuvent apparaître. Du coup, il faut échelonner sa progression. Au-delà de ça, pouvoir solliciter ses muscles et accompagner ses muscles. C'est une structure vivante qui a besoin d'un certain temps d'adaptation et du coup, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il faut faire un effort pour qu'elle sache comment gérer cet effort et lui laisser le temps de se reposer pour consolider les structures.
Effectivement, tu l'as dit, c'est un travail de longue haleine. Donc, ne vous lancez pas dans une activité. Quand tu disais, si on veut essayer d'atteindre un niveau qui n'est pas le sien, on risque de se blesser. Ça ne veut pas dire que personne ne peut atteindre un certain niveau. Ça veut simplement dire qu'il faut se laisser le temps pour l'atteindre. L'entraînement n'est qu'un enchaînement de traumatismes que l'on inflige à notre corps et qui va pouvoir apprendre à le gérer et à l'assimiler.
Voilà, c'est ça exactement. Tu le dis bien. L'entraînement est aussi un outil du coup d'apprentissage. Et il faut l'utiliser à bon escient et savoir le faire progressivement. On peut utiliser en augmentant, comme on le disait, progressivement les charges, laisser au corps le temps de s'habituer.
Alors, il me semble qu'il y a un chiffre qui revient très arbitrairement et très souvent dans les entraînements. On parle d'une progression hebdomadaire de 10%, donc d'une semaine à l'autre, ne pas progresser de plus de 10% par rapport à la semaine précédente, en dehors des fois où on observe un cycle, par exemple 3 semaines de charge, 1 semaine de décharge. Évidemment, la 5e semaine, on va pas faire uniquement 10% de plus que la semaine de décharge, mais voilà, on essaie d'équilibrer les progressions et pas plus de 10% à la fois. Est-ce que tu valides ce chiffre aussi pour ce qui est de la prévention des blessures?
Oui, généralement, c'est ce qui est le plus couramment rapporté, et même dans la littérature, ce chiffre de 10% permet une adaptation vraiment progressive et douce du corps. Il y a certaines techniques qui permettent une augmentation plus importante, mais elles doivent être suivies de manière très proche par des professionnels, du coup.
Voilà, on en revient toujours aux professionnels de santé.
Voilà, exactement. Et au coach surtout, aussi au coach et au matériel si on utilise du matériel. L'avantage chez le triathlon, c'est que le fait de combiner ces 3 sports différents permet une adaptation plus rapide. La natation, on va solliciter différentes parties du corps et ces différentes parties du corps vont libérer, par exemple, certaines enzymes qui sont bénéfiques à d'autres parties du corps ou une adaptation aussi au sein des cellules mêmes ou qui auront un rendement énergétique plus important. Et du coup, le fait de tout combiner permet au corps de mieux récupérer d'une autre activité physique et de mieux s'adapter à l'effort.
Oui, c'est ce qu'on appelle souvent aussi l'entraînement croisé.
Exactement.
Donc, on a vu les blessures, on a vu comment les prévenir et maintenant, bah, voyons comment les guérir. Comment guérir de ces différents types de blessures?
Alors, on en a parlé, c'est vraiment là, échelonner sa charge de travail. C'est principalement ça et c'est un peu la ligne conductrice de la récupération des blessures dans le triathlon et chez le sportif en général. C'est vraiment ne pas faire vraiment attention à ne pas surcharger le travail, sursolliciter ses muscles. Si on passe, si malgré tout ça arrive, voilà, il faut étirer de manière correcte. Il faut faire attention à sa posture. Quelquefois, quand on a une petite douleur, ben, même inconsciemment, on a tendance à se déporter, à modifier sa posture, à compenser sa posture. Il faut savoir que tout est fait de bas en haut pour maintenir le regard à l'horizontale. S'il y a une contracture ou on parlait de tendon d'Achille, on pose le pied par terre, on a une petite tendance à avoir mal. Du coup, on va déporter son corps d'un côté, ça va créer des tensions d'un côté, on va compenser de l'autre côté et tout modifier pour maintenir le regard à l'horizontale et on crée des compensations. Et il faut faire attention à ce mécanisme, à sa morphologie et voilà, étirer et consulter si on a des antécédents et voir un professionnel ou en discuter avec son coach pour savoir quelle est la manière la plus adaptée pour récupérer.
Bon, Olivier, on t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui, donc le micro est à toi.
Bah, je laissais parler, évidemment, l'expert. Du coup, en termes de prévention de blessures, c'est vrai que voilà, moi, je mentionnais cette semaine que j'ai eu un syndrome de l'essuie-glace à cause d'un entraînement en course à pied. Pourtant, j'étais accompagné par un coach et j'avais pas spécialement augmenté mon volume d'entraînement cette semaine-là, en tout cas à cette séance-là. Il me semble que ce type d'inflammation peut aussi venir de une mauvaise hygiène de vie ou d'un manque d'hydratation, par exemple. Est-ce que tu confirmes?
Oui, bien entendu, tu as parfaitement raison. L'aspect physique, ce que je peux apporter, ce que je peux conseiller, il y a tout le reste. Hein. Il y a l'aspect psychologique à prendre en charge, il y a l'aspect nutrition à prendre en charge, et, matériel, tous des plans sur lesquels on peut travailler pour éviter l'apparition de douleurs. Une mauvaise hygiène de vie, par exemple, si on consomme On parle plus de tabac et de l'alcool, ça paraît totalement logique, mais une alimentation qui est un peu trop acide provoquera du coup une acidité de l'organisme et favorisera l'apparition de tendinite. Du coup, ça aussi, on peut jouer, savoir si on a un pH plus acide ou pas, c'est avec des prises de sang, enfin, on peut vraiment partir très loin. La prise en charge est pluridisciplinaire et globale. Évidemment, ça n'intéresse pas une partie ou l'autre, soit le matériel, soit le physique, ou soit l'alimentation, c'est tout, tout est englobé.
Sur la partie pansement des blessures, justement, il y a un point sur lequel je voulais peut-être conclure cette série, c'était sur la partie dry needling. Je ne sais pas si tu as quelques instants pour nous expliquer ce que c'est que le dry needling du point de vue du professionnel de santé, et puis quels sont éventuellement ses bienfaits. Alors là, on est effectivement sur le traitement d'une blessure. On n'est pas sur de la prévention, quoique je pense que ça peut s'adapter aussi à la prévention. Donc Mehdi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le dry needling?
C'est une thérapie qui est assez récente dans sa dénomination, qui ressemble beaucoup à l'acupuncture. En fait, c'est un mélange entre l'acupuncture, que pas mal de gens connaissent, et les trigger points, c'est-à-dire les points de pression qui sont, selon les auteurs, cartographiés d'une certaine manière. Voilà, c'est entre les deux. Lorsqu'il y a une contraction musculaire, il peut y avoir ce qu'on nomme de manière courante un nœud musculaire, et du coup une tension bien localisée, focale, au niveau du muscle. En venant prendre appui, les points de pression, on vient créer une ischémie au niveau de ce muscle, un relâchement et une revascularisation par la suite de cette zone avec une détente, pour conséquence une détente musculaire. Le dry needling, c'est la même chose, on va venir, mais avec une aiguille, on va venir en profondeur au niveau de ces points-là pour permettre ce relâchement. Ça peut guérir certaines blessures, du coup, ces tensions-là. Et à titre préventif, bien entendu, on parlait de compensation. S'il y a des tensions musculaires même inconsciente, qui se forme, on a tendance à compenser d'une manière ou d'une autre. Du coup, en traitant ces points de tension, on évite ces compensations et du coup, une modification de la morphologie, de l'apparition de blessures.
C'est parfait. Je crois qu'on a donné envie à Olivier de tester le dry needling dès qu'il descendra de son vélo.
Bah écoute, je suis curieux, donc pourquoi pas. Pour confirmer peut-être, comment ça s'écrit, Hermano, le dry needling?
Donc dry needling, c'est D-R-Y, plus loin, needling, N-2-E-D-L-I-N-G. Traitement par aiguille. Ouais, ouais, aiguille sèche.
Parce qu'en français, on appelle aussi ça aiguille sèche, mais c'est plus cool en anglais.
Ok. Pour ceux qui voudraient faire une petite recherche ou quoi, ils savent comment ça s'écrit. Super, merci.
Messieurs, merci beaucoup pour cette série d'épisodes. Donc on le rappelle, hein, si vous n'avez pas encore compris, alors déjà si vous n'avez pas encore compris, je vous invite à réécouter les épisodes, mais à vous poser des questions sur la manière dont vous écoutez le podcast. Donc cette semaine, on a traité de la partie blessure dans le triathlon, la définition des blessures, la prévalence des différentes blessures dans les différentes disciplines, comment les prévenir et surtout comment les guérir. Nous avions à nos côtés Mehdi, qui est un spécialiste, un ostéopathe spécialiste de santé à tous les types de blessures dont on a parlé. Mehdi, si jamais nos auditeurs veulent rentrer en contact avec toi, te poser plus de questions ou peut-être même venir te voir dans un de tes cabinets pour que tu puisses les traiter, où est-ce qu'on te retrouve et comment on rentre en contact avec toi?
Alors, il y a un site qui est en cours de construction, mais sinon par mail ou sur mehdi.moussadik@gmail.com. Et voilà, j'ai 3 cabinets sur Bruxelles et qui n'hésite pas.
Super. Bah merci beaucoup Mehdi, merci Olivier. Mehdi, je te donne rendez-vous très bientôt pour qu'on puisse finaliser l'écriture, la coécriture du e-book de Oana. Et Olivier, chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série de podcasts.
Exactement.
Bien, merci beaucoup Hermano.
Merci Mehdi pour ta venue. Bon week-end à tout le monde.
Merci Olivier.
Merci.
Merci
ciao.
À vous. Bon week-end.
Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. Ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.